Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Ô saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous sommes à la fin de l'Évangile selon Saint Luc, dans les explications données par les Pères de l'Église. Un dernier fichier donc, qui contient les chapitres 21 à 24. Nous sommes dans le polycopie à la page 3, versets 20 à 24 du chapitre 21 de Saint-Luc. Lorsque vous verrez Jérusalem entourée par une armée, alors sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, et que ceux qui sont au milieu d'elle en sortent, et que ceux qui sont dans les environs n'y entrent point. Car ce seront des jours de vengeance afin que s'accomplisse tout ce qui a été écrit. Tout ce qui est écrit. Malheur à celles qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant du glaive, ils seront amenés captifs dans toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il est évident que ces textes eschatologiques font clairement allusion à la destruction de la ville de Jérusalem. Ce siège épouvantable a eu lieu du 14 avril au 1er juillet de l'an 71 par Titus. Je vous rappelle ce que dit, j'ai déjà cité ce texte, mais je le recite ici, ce que dit Joseph, l'historien Joseph. Un historien juif de l'époque. « 200 000 juifs moururent de faim pendant le siège de Jérusalem, dit-il, du 14 avril au 1er juillet de l'an 71. Près de 116 000 cadavres sortirent par une seule porte de la cité. 1 100 000 hommes furent tués dans la ville et 240 000 dans le reste de la Judée. Une forêt de croix s'élevait dans la campagne et le long des chemins où d'innombrables victimes expiaient le crime du calvaire. On ne saurait évaluer le nombre des esclaves qui furent emmenés à Rome ou vendus aux peuples étrangers. Jésus avait été estimé 30 deniers, on donnait 30 juifs pour un denier. » C'est une petite note donc, de l'abbé du chanoine Weber dans son livre où il a réuni les quatre évangiles en un seul. Dispersé dans le monde entier, ce peuple juif porte partout le stigmate du déicide. Il n'a pas voulu de la bénédiction, la malédiction l'accablera. Le sang du calvaire ne cessera de retomber sur lui et sur ses enfants, en dépit de toutes les causes et destructions, il traversera siècles et peuples, sans disparaître et sans se fondre. Cette race ne peut périr, il faut qu'elle dure, pour expier son crime jusqu'au jour où ses yeux s'ouvriront, pour reconnaître et adorer le Dieu qu'elle a rejeté et crucifié. Videbunt in quem transfixerunt. Ils regardèrent celui qu'ils avaient transpercé. Les allusions ici sont très claires, on le voit dans le texte. Jérusalem entourée par une armée, la désolation qui arrive, les jours de vengeance. Les Juifs qui tombent sur le tranchant du glaive, qui sont amenés captifs dans toutes les nations. Jérusalem foulée aux pieds par les gentils, etc. Tout y est. Donc voilà ce que dit saint Ambroise, on est en bas de la page 3. Les Juifs crurent que cette abomination, la désolation, s'était alors vérifiée, parce que les Romains avaient jeté une tête de porc dans le temple pour insulter aux observances judaïques. Évidemment, la destruction de la ville de Jérusalem par Titus sera encore pire. Alors, au sens figuré, il y a un sens figuré derrière ces textes qu'il faut ne pas oublier. L'abomination de la désolation est l'avènement d'Antéchrist, parce qu'il doit souiller l'intérieur des âmes par ses abominations sacrilèges, et selon la prédication littérale de l'Écriture, s'asseoir dans le temple pour usurper le trône de la divine majesté. Voilà le texte dans Saint Paul. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il ne viendra point qu'auparavant ne soit venue l'apostasie, que n'ait paru l'homme du péché, le fils de la perdition, qui se pose en ennemi et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu lui-même, lui-même pour Dieu. Donc c'est Saint Paul, deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Donc il va s'asseoir dans le temple, l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple pour usurper le trône de la divine majesté. Il est évident qu'il y a un sens figuré extrêmement fort aussi de ces textes eschatologiques qu'on trouve ici dans ce chapitre 21 de Saint Luc. C'est que la destruction de Jérusalem qui est annoncée représente aussi la destruction d'une autre Jérusalem. Jérusalem, c'est aussi, ça représente l'âme. N'oubliez pas que le mot Jérusalem, d'après les pères de l'Église, a plusieurs sens. Au sens propre, le mot Jérusalem représente la ville de Jérusalem. Mais au sens mystique, il y a un sens caché derrière. Je vous ai déjà souvent parlé de cela. Il y a un sens caché derrière. Il y a un sens allégorique, un sens anthropologique ou moral et un sens anagogique. Ainsi, au sens allégorique, le mot Jérusalem représente l'Église, l'Église catholique. Au sens moral, c'est ce point-là qui est important ici, le mot Jérusalem représente l'âme en état de grâce. Et au sens anagogique, le mot Jérusalem représente le paradis. Pour expliciter ce que je viens de vous dire, je voudrais vous lire le texte, un des textes les plus importants de saint Thomas d'Aquin, au début de sa somme, tout à fait dans l'introduction, la somme, donc c'est la question 1, question 1, article 10 de la prima part, tout à fait au début de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas se pose la question, est-ce que la lettre de l'Écriture sainte peut revêtir plusieurs sens ? Voilà ce qu'il dit. L'auteur de l'Écriture sainte est Dieu. Or, il est au pouvoir de Dieu d'employer pour signifier quelque chose non seulement des mots, ce que peut aussi faire aussi l'homme, mais également les choses elles-mêmes. Pour cette raison, alors que dans toutes les sciences, ce sont les mots qui ont valeur significative, celle-ci a en propre que les choses même signifiées par les mots employés signifient à leur tour quelque chose. La première signification, celle par laquelle les mots signifient certaines choses, correspond au premier sens, qui est le sens historique et littéral, ou littéral. Ainsi, donc l'exemple que j'ai donné, le mot Jérusalem veut d'abord dire au sens historique et littéral, qu'il ne faut pas éliminer bien entendu, cela veut dire la ville de Jérusalem, la ville de Palestine. La signification, continue saint Thomas, par laquelle les choses signifiées par les mots signifient encore quelque d'autre chose, c'est ce qu'on appelle le sens spirituel, qui est fondé sur le sens littéral et le suppose. Donc à la fondation, vous avez le sens historique ou littéral. Au-dessus, il y a le sens spirituel qui correspond à un sens qu'on appelle fort le sens caché. À son tour, dit saint Thomas, le sens spirituel se divise en trois sens distincts. En effet, dit l'apôtre, saint Paul, Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 19, « La loi ancienne est une figure de la loi nouvelle. Et la loi nouvelle elle-même, ajoute saint Denis, est une figure de la gloire à venir. En outre, dans la loi nouvelle, ce qui a lieu dans le chef est le signe de ce que nous devons faire nous-mêmes. Donc, lorsque les réalités de la loi ancienne signifient celles de la loi nouvelle, on a le sens allégorique. » Dans l'exemple que je vous ai donné, Jérusalem, dans ce cas-là, représente l'Église. Quand les choses réalisées dans le Christ ou dans ce qui signifie le Christ sont le signe de ce que nous devons faire, on a le sens moral, qui est aussi appelé le sens anthropologique. Dans ce cas-là, le mot Jérusalem, je vous l'ai dit, représente l'âme en état de grâce. Pour autant, enfin, que ces mêmes choses signifient ce qui existe dans la gloire éternelle, on a le sens anagogique, c'est-à-dire le sens eschatologique de la fin des temps. Dans ce cas-là, le mot Jérusalem représente l'Église catholique. Comme d'autre part, dit saint Thomas, le sens littéral est celui que l'auteur entend signifier, comme l'auteur de l'Écriture sainte est Dieu, qui comprend simultanément toute chose dans la simple saisie de son intelligence, il n'y a pas d'obstacle à dire à la suite de saint Augustin que selon le sens littéral, même dans une seule lettre de l'Écriture, il y a donc plusieurs sens. Il n'y aura pas non plus de confusion à l'Écriture sainte, car tous les sens sont fondés sur l'unique sens littéral, et l'on ne pourra argumenter qu'à partir de lui à l'exclusion des sens allégoriques. Un dogme de foi, par exemple, ne peut pas être fondé sur le sens caché de l'Écriture sainte, mais sur le sens littéral. Rien, cependant, ne sera perdu de l'Écriture sainte, car rien de nécessaire à la foi n'est contenu dans le sens spirituel sans que l'Écriture nous le livre clairement ailleurs par le sens littéral. Vous voyez, ces textes de saint Thomas n'ont vraiment pas pris une seule ride. Alors, je reprends les textes du Polycopié, donc on est à page 3. Ce Polycopié qui suit les chapitres 21-24 de saint Luc, en bas de la page. Ce texte est aussi l'objet du sens spirituel de ces paroles, parce qu'il voudra imprimer dans les âmes les traces profondes de sa perfidie, en cherchant à prouver par les Écritures qu'il est le Christ. Ici, il parle de l'Antichrist. Alors approchera la désolation, parce que la plupart succomberont honteusement et abandonneront la véritable religion. Donc, l'Antichrist va essayer de travailler sur les âmes. Travailler sur l'Église, pour détruire l'Église s'il était possible. On le voit très bien actuellement avec la destruction, au moins apparemment, d'une partie de l'Église catholique qui est devenue l'Église de Vatican II, qui n'est plus rien de catholique. Mais analogiquement, si vous voulez, ou plus exactement moralement, tropologiquement, cette destruction de la ville de Jérusalem représente ce qui se passe dans une âme qui tombe dans le péché mortel. Une âme qui tombe dans le péché, une âme en état de grâce, c'est la Jérusalem, d'ici-bas, d'une certaine façon, moralement parlant. Lorsque la Jérusalem est détruite, c'est quand l'âme accepte le péché mortel. Le péché mortel va faire exactement la même chose que Titus dans la ville de Jérusalem qui va être détruite complètement par Titus. De la même façon, le péché mortel va détruire totalement l'âme en état de grâce qui appartient à Dieu parce qu'il y a le caractère du baptême dans cette âme. Bon, une différence essentielle, c'est que Dieu merci, même si une âme catholique a le malheur de commettre un péché mortel et donc de perdre l'union avec Dieu, elle peut récupérer cette union avec Dieu par une bonne confession ou un acte de contrition parfaite. À ce moment-là, on ressuscite en quelque sorte cette âme. Dieu va ressusciter cette âme. Alors aussi, ce sera le jour du Seigneur, en bas de la page 3. Car de même que son premier avènement a eu pour objet de nous racheter de nos iniquités, le second aura pour fin de réprimer les coupables efforts de ceux qui voudraient entraîner les fidèles dans l'erreur et la fidélité. Et on le voit très bien aujourd'hui, l'Antéchrist essaye de détruire le travail du Christ, exactement comme l'Église de Vatican II essaye de détruire toute l'œuvre d'évangélisation de l'Église catholique. C'est pour ça qu'elle essaie de faire croire que l'Église catholique et l'Église de Vatican II ne sont qu'une seule et même église, c'est une ineptie avec des conséquences morales épouvantables. Mais il m'arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois, je ne suis pas le seul d'ailleurs, si on me présente une photo de François Bergoglio, on me demande, mais pour vous, monsieur l'abbé, qui est cet homme? Je réponds toujours la même chose. Cet homme, François Bergoglio, est le pape de l'Église de Vatican II. Alors, en général, on pose tout de suite la question, mais est-ce que pour vous, il est pape de l'Église catholique aussi? Bien sûr que non, parce que l'Église catholique et l'Église de Vatican II sont deux entités complètement différentes. Elles sont plus que différentes, elles sont en opposition, en contradiction totale. L'Église de Vatican II est centrée sur l'homme, l'Église de Vatican II est centrée sur la déclaration des droits de l'homme, l'Église catholique est centrée sur Dieu, sur la déclaration des droits de Dieu. Donc on est dans deux, non pas simplement dans deux mondes différents, mais littéralement sur deux planètes différentes. Il n'y a rien il n'y a aucun pont possible entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II. Aucun. Je me sens parfois moins éloigné, si vous voulez, de certains groupes protestants fondamentalistes que l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II, j'ai rien à voir avec cette Église. Ce n'est pas mon Église, je ne suis pas prêtre de l'Église de Vatican II, je ne donne pas le sacrement de l'Église de Vatican II, je donne avec la grâce du bon Dieu le sacrement de l'Église catholique, je suis prêtre de l'Église catholique, prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ et pas prêtre du monde moderne. Donc, bien réaliser ça, lorsque le démon attaque une âme, il va chercher à faire ce que Titus a fait avec Jérusalem, détruire complètement cette âme pour qu'elle ne puisse plus ressusciter d'entre les morts. Lorsque les Romains voulaient détruire une ville, dans leur combat, une fois qu'ils avaient détruit la ville, ils semaient littéralement du sel sur les ruines de la ville pour que aucune végétation ne puisse plus sortir de cette terre. La terre deviendra stérile à cause du sel et il n'y aura plus aucune renaissance possible de cette ville. Eh bien, c'est un peu ce que cherche à faire le démon. Le démon essaye d'empêcher toute résurrection spirituelle possible. Donc il cherche à rentrer dans l'âme et empêcher l'âme de se remettre en selle, en quelque sorte. Et pour pouvoir revenir dans les métiers du bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut? On est obligé de passer par la case conversion. Il n'y a pas de conversion possible sans la grâce du bon Dieu. Le bon Dieu est prêt à donner cette grâce de conversion, mais la grâce de conversion ne s'oppose pas au libre arbitre de l'homme. Les deux travaillent ensemble comme les deux doigts de la même main. La grâce du bon Dieu est toute puissante, mais malheureusement, la grâce toute puissante de Dieu respecte, malheureusement, c'est comme ça que le bon Dieu l'a voulu, la grâce toute puissante de Dieu respecte le libre arbitre de l'homme. Alors, tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Une résurrection est possible, mais il n'y a pas de résurrection sans changement, sans conversion personnelle et sans un retour à ce qu'on appelle la voie purgative. N'oubliez pas qu'on ne va pas directement à Dieu, on passe par la voie purgative pour se purifier de ses péchés afin de recevoir les lumières du Saint-Esprit, voie illuminative, et s'unir à Dieu par la voie mystique ou unitive. Sur la page 4, là on retrouve ce que je viens d'expliquer à partir des pères. Il y a encore un autre antéchrist, c'est le démon, qui s'efforce d'assiéger Jérusalem, c'est-à-dire l'âme pacifique avec l'armée de sa loi tyrannique. Vous voyez ici, le père utilise le mot Jérusalem dans un sens anthropologique, sens moral. Jérusalem représente l'âme en état de grâce, l'âme pacifique. Or, quand le démon se trouve au milieu du temple, le temple c'est notre âme, c'est l'abomination de la désolation. Donc l'abomination de la désolation dans le sanctuaire, cette abomination de la désolation dans le sanctuaire représente l'arrivée de l'antéchrist. L'abomination de la désolation, disent les pères, quand le démon se trouve au milieu du temple. Et c'est ce qui est représenté par la destruction de la ville de Jérusalem. La désolation est proche. L'abomination de la désolation, c'est donc l'introduction du démon dans une âme ou l'introduction du démon dans l'église, dans le temple de Jérusalem pour le temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la présence spirituelle du Christ, au contraire, vient à nous éclairer de sa lumière, au milieu de nos tentations, le démon s'éloigne et la justice commence à régner. C'est ou la lumière du Christ ou l'obscurité du démon. Parce que vous êtes dans une pièce qui est toute sombre, sans lumière, si vous branchez l'électricité dans cette pièce, immédiatement, dès que l'ampoule s'allume, ou dès que vous ouvrez les volets pour faire paraître la lumière du soleil, l'obscurité disparaît. On ne peut pas avoir dans une même pièce l'obscurité et la lumière en même temps, c'est impossible, c'est l'une ou l'autre. Soit on a l'obscurité et à ce moment-là la lumière disparaît, soit on a la lumière et à ce moment-là l'obscurité disparaît. On ne peut pas avoir les deux choses. Et c'est ça le drame du monde moderne, c'est le drame de l'Église de Vatican II qui cherche à unir deux choses qui ne peuvent pas être unies. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Mais on ne peut pas unir des choses qui sont en complète contradiction. On ne peut pas unir entre Seigneur Jésus-Christ et le démon. On ne peut pas unir le monde et entre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas unir l'Église de Vatican II, qui est l'Église des hommes, avec l'Église du Christ, qui est l'Église catholique. C'est absolument impossible. Alors ici, les pères de l'Église parlent aussi d'un troisième antéchrist, c'est-à-dire c'est l'hérétique Arius, Sabellius et tous ceux qui cherchent à nous séduire pour nous perdre. Alors, Arius, c'est le père de l'arianisme, troisième siècle. Arius va nier la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour lui, notre Seigneur Jésus-Christ n'est qu'un homme, il est le premier des hommes, la plus haute de toutes les créatures, mais il n'est que créature. Et ainsi, Arius va nier la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notons, ça c'est à bien comprendre, que notre Seigneur Jésus-Christ est aussi homme. Donc si je dis notre Seigneur Jésus-Christ est homme, c'est vrai. Donc quand Arius disait notre Seigneur Jésus-Christ est homme, Arius disait quelque chose de vrai. Mais si je dis notre Seigneur Jésus-Christ n'a qu'une nature humaine, sous-entendu il n'a pas de nature divine, là je tombe dans l'hérésie. Et c'est vu l'hérésie d'Arius et toutes ses conséquences qui niaient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à Sabellius, c'est 3e siècle. Alors ça, c'est une erreur assez compliquée sur la Sainte Trinité. Sabellius niait en fait les trois personnes de la Sainte Trinité, la séparation des personnes, en prétendant que les trois personnes n'étaient que trois modalités du même Dieu. C'est-à-dire trois lumières différentes qui viennent du même diamant. Et en fait, bien, l'Église catholique enseigne clairement que même si le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, les trois personnes de la Sainte Trinité sont consubstantielles parce qu'elles ont la même substance divine, mais elles sont tout à fait différentes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils, il n'est pas le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas dire que le Saint-Esprit, par exemple, s'est incarné, ce serait de l'hérésie. On ne peut pas dire que le Père s'est incarné. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est incarnée, notre Seigneur Jésus-Christ, et pas la première ni la troisième. C'est pour cela que saint Thomas d'Aquin fait ces distinctions dont j'ai déjà parlé, je n'y reviens pas, par les différentes relations intra-trinitaires pour séparer les personnes. Mais il y a une séparation réelle des personnes, attention. Donc il y a la paternité, la filiation, l'aspiration, etc. Et la procession, donc, qui permettent une séparation des trois personnes dans l'unité substance. Ensuite, il y a un commentaire des pères sur le verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans les pays, la colère contre ce peuple. Donc ces femmes qui sont enceintes, dont le Sauveur déplore le triste sort, sont les chrétiens qui flattent les instincts de la chair, dont la marche est ralentie et entravée par la mollesse, qui sont stériles pour la vertu et n'ont de fécondité que pour le vice. C'est terrible, cette explication des pères, elle est vraiment très forte. Quand j'appartiens au démon, si j'ai laissé rentrer le prince des ténèbres, l'antéchrist, le démon dans mon âme, à ce moment-là, mon âme devient stérile pour la vertu et n'a plus de fécondité que pour le fils, le vice. Au contraire, lorsque je me suis converti, j'ai retrouvé la grâce du bon Dieu, mon âme va devenir féconde pour la vertu et stérile pour le vice. On voit encore qu'on ne peut pas plaire à deux maîtres à la fois, ou on adorera le premier et haïra le second, ou on haïra le premier et adorera le second. Ceux-mêmes qui sont pour ainsi dire comme au travail de bonnes œuvres, qui n'en ont encore produit aucune, ne sont pas à l'abri de cet anathème. Donc malheur à celui qui ne donne pas de fruits. Rappelez-vous la parabole du figuier stérile. Si le figuier ne donne pas de figues, eh ben le jardinier va vouloir arracher le figuier. Alors le bon Dieu est plein de bonne volonté. Le propriétaire va dire, bon attendez, on va encore attendre encore un peu, vous allez mettre du fumier autour de l'arbre. C'est en fait le jardinier qui essaie de sauver le figuier. En disant, écoutez, laissez-moi encore un peu de temps, je vais mettre un peu de fumier autour de l'arbre, je vais arroser, prendre un soin particulier de cet arbre. Et puis si vraiment l'année prochaine il ne donne toujours pas de figues, bon on le coupera parce qu'il n'y a aucune raison qu'il utilise la terre pour rien. Mais c'est la même chose pour nous. Malheur à moi si je ne donne pas de fruits. Malheur à moi si je suis stérile pour la vertu. Malheur à moi si je suis fécond pour le vice. Mais on voit très bien l'opposition, encore une fois, de même qu'il y a une opposition totale entre l'obscurité et la lumière, de même il y a une opposition totale entre la vertu et le vice. On ne peut pas avoir l'obscurité et la lumière dans une même pièce, de même qu'on ne peut pas avoir dans une même âme la vertu et le vice. Si je suis en état de grâce, j'ai perdu la grâce sanctifiante et donc j'ai perdu la vertu. Si au contraire, au moins les vertus infuses, la vertu de charité notamment, la vertu de charité est complètement détruite. Je ne peux pas avoir en même temps dans une âme la vertu de charité et le péché, c'est impossible. Donc soit je suis stérile pour la vertu, soit je suis stérile pour les vices, mais je ne peux pas être stérile pour les deux à la fois. Je ne peux pas être fécond pour la vertu et le vice en même temps. Les pères qu'on précise, au haut de la page 4, il en est en effet qui conçoivent par un sentiment de crainte de Dieu, mais tous n'enfantent pas. Donc concevoir, c'est une chose, mais mettre un enfant au monde, c'en est une autre. Bien qu'il y ait déjà vie, attention, il y a déjà vie dès le début de la grossesse. La maman est déjà mère. La femme qui a un début de grossesse est déjà maman. Elle est maman d'un bébé. N'est pas encore sortie à l'air libre, mais qui est dans son sein, elle est donc déjà mère. Il faut bien comprendre ça. Il faut faire attention, ne pas utiliser ces mots qui sont utilisés par les gens modernes pour essayer d'éliminer l'idée que l'enfant dans le sein de sa mère n'est pas un homme. C'est pour ça que les modernes utilisent toujours le mot de fœtus, par exemple. C'est un fœtus. Mais un fœtus, c'est un bébé. C'est un petit bébé qui est encore tout petit, qui grandit dans l'utérus maternel, mais c'est déjà un enfant. Vous voyez ? Il y a vie, et s'il y a vie, il y a évidemment la présence d'une âme. Il ne peut pas y avoir de vie humaine sans une âme, l'union d'une âme et d'un corps. Donc l'enfant, dès le moment de la conception, le moment de l'union de la gamète masculine et la gamète féminine, dès cet instant où il y a fécondation, immédiatement, il y a présence d'une âme. Dieu crée de toutes pièces une âme pour animer ce petit corps qui va commencer à grandir dans le sein de sa mère pendant 9 mois. Donc, c'est intéressant de voir que les pères de l'Église disent que la marche de la vertu est entravée, ralentie par la mollesse qui sont stériles et qui va entraîner une stérilité pour la vertu et une fécondité pour le vice. Donc, la mollesse, d'après les pères, à la base de tous les vices, espèce de paresse spirituelle, la sédie qui entraîne l'ouverture de portes de notre âme aux démons. Et c'est une caractéristique du monde moderne, cette espèce de mollesse. Les enfants modernes sont incapables de faire quelque chose de sérieux justement parce qu'ils sont dans la superficialité tout le temps. Ils vivent dans le monde virtuel. L'Église catholique, c'est le passage du virtuel à la réalité, le passage du paraître à l'être. Et je répète cette phrase qui est très importante. Les chrétiens qui flattent les instincts de la chair, dont la marche est ralentie, entravée par la mollesse, sont stériles pour la vertu, n'ont fécondité que pour le vice. Donc malheur à moi si je laisse la concupiscence de la chair entraver ma vie spirituelle. Les anciens, je vous le rappelle, utilisaient beaucoup le jeûne pour lutter contre la concupiscence de la chair. L'aumône contre la concupiscence des yeux, le jeûne contre la concupiscence de la chair et la prière contre la concupiscence de l'orgueil. Donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir un sentiment de crainte de Dieu, il faut enfanter la vertu. Il en est donc en effet, je répète cette phrase des pères, il en est en effet qui conçoivent par un sentiment de crainte de Dieu, mais tous n'enfantent pas. Quelques-uns font, pour ainsi parler, comme avorter la parole de Dieu et la rejettent avant de l'enfanter. Donc il faut une idée très forte là. Le péché mortel dans une âme, c'est une espèce d'avortement spirituel. Je tue la grâce de Dieu en mon âme. Dieu est obligé de quitter une âme qui accepte le péché mortel. Donc c'est comme un avortement spirituel, avortement physique, c'est quoi? C'est la destruction, le démembrement de ce petit être, ce bébé tout petit dans le sein de sa mère, qui va être coupé en morceaux, assassiné de cette façon, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit dans mon âme par le baptême, par la grâce sanctifiante, par la vertu de charité, est littéralement démembré dans mon âme, coupé en morceaux et jeté en dehors de mon âme. Donc on peut vraiment dire, c'est une expression très forte, on peut vraiment dire que le péché mortel est un avortement spirituel. Donc le péché mortel, c'est l'avortement de la parole de Dieu, le rejet de la parole de Dieu avant même qu'elle sorte de l'âme. D'autres portent le Christ dans leur sein, mais il n'est pas encore formé. Ainsi, l'âme qui enfante la justice enfante le Christ. Donc, l'âme en état de grâce est un berceau, si vous voulez, qui reçoit notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez la crèche de Bethléem. Une âme en état de grâce représente la crèche de Bethléem. Et Saint Curé d'Ars allait jusqu'à dire, avec raison, qu'à chaque fois que je commets une faute grave, ben, je crucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de mon âme. Je prends un fouet, je prends un couteau et j'enfonce ce couteau dans le cœur, sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ pour le tuer littéralement. Donc c'est vraiment un avortement spirituel. Par contre, celui qui enfante la justice, il enfante le Christ. Alors, autre commentaire de ce verset, malheur à celles qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là, voilà ce que disent les pères, hâtons-nous aussi d'allaiter nos enfants pour n'être pas surpris par le jour du jugement de la mort. Le bon Dieu va venir comme un voleur. Donc malheur, dit l'Écriture sainte, malheur à ceux qui allaiteront en ces jours-là. Donc il faut justement être déjà des adultes spirituels très vite pour pouvoir être capable de quitter la ville de Jérusalem qui va être détruite. C'est quand on voit que le démon est en train de rentrer dans ma sphère d'influence, dans ma vie de tous les jours, eh bien il faut s'enfuir à toute vitesse pour éviter le péché, plutôt mourir que de commettre le péché. Donc, hâtons-nous de fuir pour ne pas être surpris par le jour du jugement de la mort. Il en sera ainsi si vous conservez dans votre cœur toutes les paroles de la justice sans attendre le temps de la vieillesse. Et si dès votre premier âge, vous vous hâtez de concevoir la sagesse et de la nourrir en la préservant de la corruption des sens. Quelle belle phrase. Une phrase très poétique, mais tout à fait exacte. Donc, lorsque je vis en état de grâce, je préserve de la corruption des sens mon âme. En quelque sorte comme une protection surnaturelle, une armure surnaturelle qui va protéger mon âme des traits du malin. Le bon Dieu, par le baptême, par l'état de grâce, par le sacrement de la pénitence, par le sacrement de la Sainte Eucharistie, tous les sacrements, nous met en quelque sorte sur l'âme une espèce de cuirasse spirituelle qui va arrêter les traits venimeux du malin, des ennemis de l'âme, à savoir le démon, le monde et nous-mêmes aussi. À la fin du monde, les nations qui auront embrassé la foi soumettront toute la journée par le glaive de la parole spirituelle, qui est un glaive à double tranchant, à deux tranchants. Vous voyez, donc il y a un combat, ce qu'on appelle le combat spirituel. Et je pense qu'une des façons de définir l'Église de Vatican II, c'est de dire l'Église de Vatican II est une Église pacifique, une Église iréniste. L'iréniste, c'est une hérésie qui consiste à vouloir éliminer le combat. On ne veut plus se battre. On veut bien être soldat à condition qu'on n'ait pas à se battre. On veut bien utiliser une arme à condition de ne pas blesser l'ennemi. Ça sert à quoi? Donc attention à ce pacifisme spirituel. De même qu'un pacifisme en matière militaire va détruire complètement l'armée, qui ne va plus pouvoir se défendre, ne plus vouloir se défendre. De la même façon, un pacifisme spirituel empêche la protection surnaturelle de l'âme. Du coup, l'âme se retrouve sans protection, sans cuirasse, et le démon peut rentrer dans cette âme et faire ce qu'il veut à l'intérieur de cette âme. Donc la parole de Dieu, la parole divine, la parole spirituelle, disent les pères, est comme un glaive à deux tranchants qui va me protéger, d'une part me protéger, d'autre part attaquer, un tranchant pour me protéger, un tranchant pour attaquer l'ennemi. Avançons avec les versets 25, 26 et 27. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations à cause du bruit confus de la mer et des flots. Les hommes séchant de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver à tout l'univers, car les puissances des cieux seront ébranlées. On verra alors le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec une grande puissance et une grande majesté. Ici, c'est la fin des temps qui est annoncée, donc le jugement général à la fin des temps, avec l'écroulement en quelque sorte de ce monde, suivi de l'embrasement général du monde tel qu'on le connaît ici-bas. Et donc le Fils de l'homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir avec une grande puissance et une grande majesté, avec le signe de notre rédemption, c'est-à-dire le signe de la croix, pour séparer les vivants des morts, c'est-à-dire séparer les justes des injustes. Au juste, il va dire éloignez-vous de moi, maudit. Au juste, il va dire venez posséder le royaume qui vous a été préparé pour vous, pour les anges et vous-même. Et au mauvais, il va dire éloignez-vous de moi, maudit. On peut mettre en parallèle ces textes eschatologiques, ici chapitre 21 de Saint-Luc, versets 25, 26 et 27, avec d'autres textes, entre autres dans Saint Matthieu, au chapitre 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez pas vous-même et vous ne souffrez pas que les autres entrent. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que sous le prétexte de vos longues prières, vous dévorez les maisons des veuves. C'est pour cela que vous subirez un jugement plus rigoureux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est fait, vous faites de lui un fils de la gêne deux fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, quiconque jure par le temple, ce n'est rien, mais quiconque jure par l'or du temple doit ce qu'il agirait. Insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et plus loin, malheur à vous, pharisiens, scribes, hypocrites, qui payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, qui négligez les choses les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la foi. Guides aveugles, qui employez un filtre pour le moucheron et qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis qu'au dedans, vous êtes plein de souillures et de rapines. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui au dehors paraissent beaux aux hommes et au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes de pourritures. Ainsi vous aussi, au dehors vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez les tombeaux des prophètes, ornez les monuments des justes, et qui dit, si nous avions été du temps de nos pères, nous n'aurions pas été complices avec eux du sang des prophètes. Ainsi, vous êtes à vous-même un témoignage que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc aussi la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment fuirez-vous le jugement de la géhenne? C'est pourquoi, voici que moi-même, je vous envoie des prophètes, des sages et des docteurs. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous en flagellerez d'autres dans vos synagogues et vous les poursuivrez de ville en ville. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes et tu n'as pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Et on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ a prévenu justement l'arrivée de cette fin des temps. On voit d'autres exemples, on peut donner d'autres exemples de ces textes de notre Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre suivant, 24 de Saint Matthieu. Vous entendrez parler de combat et de bruit de combat. N'en soyez point troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin, car un peuple se soulevera contre un autre peuple, un royaume contre un royaume. Il y aura des pestes, des famines, des tremblements de terre en divers lieux. On vous livrera aux tribulations et à la mort, et vous serez en haine à toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup se scandaliseront et se trahiront et se haïront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes aussi s'élèveront, et beaucoup seront séduits par eux. L'iniquité aura abondé. alors la charité d'un grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. On trouve des textes presque identiques, toujours dans le verset chapitre 24 de Saint Matthieu. Je cite ces textes pour vous aider à comprendre ce texte de Saint Luc chapitre 21 qu'on explique actuellement. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Quand vous verrez l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel régnant dans le lieu saint, que celui qui l'y entende, alors que ceux qui sont dans la Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quelque chose de sa maison, que celui qui sera dans les champs ne revienne pas pour prendre sa tunique. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui nourriront en ces jours-là, pratiquement le même verset qu'on a vu en Saint Luc. Priez donc pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la tribulation sera grande, tel qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'en aura point. Et si ces jours n'eussent été abrégés, nulle chair n'aurait été sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Il s'élèvera des faux prophètes. Ils feront des grands signes et des prodiges en sorte que soient induits en erreur, s'il peut se faire, même les élus. Aussitôt après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les vertus des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Alors pleureront toutes les tribus de la terre et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. Pratiquement le même verset qu'on trouve au verset 27 du chapitre 21 de Saint Luc. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une grande puissance et une grande majesté. Et il enverra, continue Saint Matthieu, il enverra les anges qui, avec une trompette et une voix éclatante, rassembleront ses élus des quatre vents de la terre, du sommet des cieux jusqu'à leur dernière profondeur. Apprenez la parabole prise du figuier. Quand ses rameaux sont encore tendres et ses feuilles naissantes, vous savez que l'été est proche. Ainsi vous-même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Christ est proche, à la porte. En vérité, je vous l'ai dit, que cette génération ne passera point jusqu'à ce que toutes ces choses s'accomplissent. Comme au jour de Noé, ainsi l'avènement du Fils de l'homme. Car comme ils étaient au jour d'avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant et mariant leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qui ne reconnurent point le déluge jusqu'à ce qu'il arrivât, il les emporta tous. Ainsi sera l'avènement même du Fils de l'homme. Et conclusion de Saint Matthieu, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car vous ignorez l'heure à laquelle le Fils de l'homme doit venir. Et Saint Matthieu explique, sachez ceci, si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait certainement, ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car vous ignorez l'heure à laquelle le Fils de l'homme doit venir. Ces paroles, aussi eschatologiques de Saint Matthieu, nous annoncent justement cette fin des temps pour nous, pour chacun d'entre nous. Il y aura une fin des temps pour nous. La fin des temps pour chacun d'entre nous, c'est notre mort. Le moment de la séparation entre notre corps et notre âme, nous serons jugés par Dieu. C'est la fameuse phrase, rends compte de ta gestion. Donc Jésus-Christ lui-même brillera, disent les pères, comme l'astre et le roi de ce monde nouveau. L'éclat de la gloire de sa divinité sera si grand que le soleil qui nous éclaire maintenant, la lune et les autres astres disparaîtront en présence de cette incomparable lumière. Donc la lumière éclatante du Christ, la divinité du Christ, détruira l'obscurité du péché, l'obscurité du démon. Saint Ambroise explique en bas de la page 4, par suite de l'apostasie d'un grand nombre, la clarté de la foi sera obscurcie par les nuages de l'infidélité, car le soleil de justice croît ou décroît pour moi en raison de ma foi. De même que dans ces révolutions mensuelles, la lune perd sa clarté à mesure que la terre s'interpose entre elle et le soleil. De même, la Sainte Église ne peut plus emprunter au rayon de Jésus-Christ l'éclat de sa divine lumière lorsque les vices de la chair viennent s'interposer entre elle et la lumière céleste. Donc, le péché dans mon âme, c'est comme un volet qui se ferme, si vous voulez. Il y avait la lumière éclatante du soleil dans ma maison, dans ma chambre, et je ferme les volets de telle façon que la lumière ne puisse plus pénétrer. À ce moment-là, c'est l'obscurité. La lumière s'en va, l'obscurité remplace la lumière, l'obscurité qui remplace la lumière, c'est évidemment le démon. Ici, les pères de l'Église, saint Ambroise, parlent du vice de la chair, concupiscence de la chair, qui vient s'interposer entre elle et la lumière céleste. Donc si je laisse rentrer la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, la concupiscence de l'orgueil, eh bien l'obscurité du péché va rentrer dans mon âme, et du coup, notre Seigneur Jésus-Christ est obligé de partir. Il ne peut pas rester dans une âme qui est occupée par le péché, il faut que l'un des deux parte. Et saint Ambroise, je pense que c'est lui, continue en disant, en effet, presque toujours dans les persécutions, l'amour de cette vie devient un obstacle à la lumière de ce soleil divin. Regardez ce qui se passe en France actuellement. La France qui est devenue, je dis souvent cette expression parce qu'elle est très vraie, une gigantesque poubelle. La France qui était fille aînée de l'Église et qui est toujours strictement parlant fille aînée de l'Église. Regardez ce qui est devenu la France. Un pays entièrement chrétien encore quelques siècles qui est maintenant devenu un pays païen. Je crois que la pratique religieuse en France catholique c'est 2,5% et encore là-dedans on compte l'Église de Vatican II. Vous voyez un petit peu ce qui peut rester comme véritable catholique en France. Une proportion infinitésimale. Donc l'amour de cette vie devient l'obstacle à la lumière de ce soleil divin. Les étoiles, c'est-à-dire les personnages célèbres, tombent des cieux lorsque la violence de la persécution redouble. Tout cela doit s'accomplir jusqu'à ce que le nombre des enfants de l'Église soit complet, car la persécution est la pierre de tous qui fait reconnaître les bons et les mauvais. Le démon va essayer de détruire les âmes, mais les persécutions vont permettre de voir où sont les véritables soldats. Et rappelez-vous cette comparaison que j'ai déjà utilisée souvent, dans les divers sermons, j'ai dû expliquer aussi en cours, du nombre des élus qui est fixe. Lorsque Lucifer s'est révolté contre Dieu et qu'il a été jeté hors du ciel par Saint Michel, avec un tiers des anges qui a suivi Lucifer, cela fait du vide au ciel. C'est Sainte Bonaventure qui explique ces choses-là très bien. Il y a donc un tiers des places au ciel qui sont restées vides à cause de la chute de Satan et de ses anges apostats. Et donc Dieu va créer l'homme pour que les hommes qui meurent en état de grâce puissent venir prendre les places cédées par la chute des anges. Et donc la fin du monde, dit Saint Bonaventure, arrivera au moment précis où le dernier homme qui meurt en état de grâce occupera la dernière place laissée libre par la chute des anges. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de possibilité de salut puisque toutes les places seront pleines, seront occupées au ciel. Bon, c'est évidemment un peu allégorique, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. La persécution, donc, est la pierre de touche qui fait reconnaître les bons et les mauvais. L'agitation et les angoisses des esprits seront si grandes que la multitude des crimes dont le souvenir se réveillera par la crainte du jugement desséchera pour nous la source de la rosée divine. Et comme le soleil détruit l'humidité de la terre, dans son premier avènement, Dieu a voulu apparaître revêtu de notre infirmité, de notre bassesse, mais lorsqu'il reviendra pour la seconde fois, ce sera avec la puissance qui lui est propre. Et ces textes très forts des pères sur le sujet. En bas de la page 4, un texte de Saint Grégoire. Ceux qui n'ont pas voulu l'écouter dans son état d'humiliation le verront alors dans sa puissance et dans sa gloire. Ils ressentiront d'autant plus les effets de sa colère que leurs cœurs auront résisté davantage aux avaries de sa miséricorde. Dieu nous donne toutes les chances dont nous avons besoin. Il nous donne sa grâce pour que nous puissions nous convertir. Il va venir frapper, refrapper à notre porte, mais en même temps, je vous l'ai déjà expliqué, il respecte notre libre arbitre. Mais à un moment, ça sera fini. Il y a un nombre de péchés que Dieu a décidé de pardonner pour chacun d'entre nous, et ce nombre est différent pour chaque personne. À certaines personnes, Dieu a décidé de pardonner une vingtaine de péchés mortels, à d'autres personnes, il va pardonner des millions de péchés mortels. Il est libre. En tant que Dieu, il fait ce qu'il veut. Il donnera à celui qui sera condamné après 20 péchés mortels les grâces, il avait donné à cet homme les grâces nécessaires pour qu'il puisse se sauver. Et pour un autre homme, pour lequel le bon Dieu a prévu de pardonner des millions de péchés mortels, il a donné pendant tout ce temps aussi des grâces pour qu'il se sauve. Dans les deux cas, si la personne se donne, c'est de sa faute. Si je me sauve, c'est grâce à Dieu. Si je me donne, c'est ma faute. Si je me donne après 20 péchés mortels, eh bien, je ne peux pas dire c'est la faute du bon Dieu. Pourquoi le bon Dieu a-t-il pardonné à d'autres des millions de péchés mortels, à moi que 20? Dieu sait ce qu'il fait. Si je tombe en enfer après 20 péchés mortels, eh bien, je serai en enfer en fonction des refus de la grâce pendant ces années-là, pour ces 20 péchés mortels, ces 19 péchés mortels que le bon Dieu m'a pardonné, eh bien, j'aurai des comptes à rendre. Mais si le bon Dieu m'a pardonné des millions de péchés mortels, j'ai reçu bien plus de grâce. Donc, on peut penser que celui qui meurt après des millions de péchés mortels aura un enfer bien plus terrible que celui qui meurt après simplement 20 péchés mortels. Encore une fois, c'est le mystère de Dieu. Là, j'aime beaucoup cette phrase de Saint Grégoire. Ils ressentiront d'autant plus les effets de la colère de Dieu que leur cœur aura résisté davantage aux avarices de sa miséricorde. Plus j'ai de grâce, j'ai reçu de grâce, plus j'aurai à rendre. Rappelez-vous la parabole des talents. Rappelez-vous aussi la parabole des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages sont plus rentrées avec l'époux. Mais les vierges folles qui n'avaient pas prévu de l'huile, elles sont obligées d'acheter de l'huile, et pendant qu'elles sont loin pour acheter leur huile et alimenter leur lampe, l'époux arrive, et lorsqu'elles reviennent, tambourinent à la porte et c'est trop tard. Que va répondre l'époux? Je ne vous connais pas. Passons à la page 5 de ce polycopier, versets 28 à 33 du chapitre 21 de Saint-Luc. Lorsque ces choses commenceront à arriver, regardez, levez la tête parce que votre rédemption approche. Il leur proposa cette comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Lorsqu'ils commencent à produire leurs fruits, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette race ne passera point, que tout ne s'accomplisse. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas mentir. Je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées, mon Dieu, vous enseignez par votre Église, parce que, étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Ces phrases de notre Seigneur Jésus-Christ, mes paroles, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point, sont à la fois encourageantes et terribles. Encourageantes pour celui qui croit à la miséricorde du bon Dieu, et terribles pour celui qui n'y croit pas. Il faut craindre le bon Dieu, et en même temps espérer en sa miséricorde. Hein. C'est ce que dit le psaume 146. Et à la fin du psaume 146, une phrase que j'aime énormément, je médite souvent là-dessus. Le Seigneur a mis sa complaisance, verset 11 du psaume 146 de David. Le Seigneur a mis sa complaisance dans ceux qui le craignent et dans ceux qui espèrent en sa miséricorde. Que mon Dieu a un amour tout particulier pour ceux qui le craignent, mais qui espèrent en sa miséricorde. Donc la crainte de Dieu est le début de la sagesse. La crainte de Dieu est le début de l'ouverture du Sacré-Cœur à la miséricorde. Mais si je ne crains pas Dieu, je ne peux pas espérer en sa miséricorde. Parce que celui qui ne craint pas Dieu ne croit pas en Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu vit dans le péché jusqu'au cou, ne craint pas Dieu, et ne craignant pas Dieu, il n'a pas d'amour pour lui. Celui qui au contraire a la véritable crainte de Dieu, espère en sa miséricorde, ça veut dire quoi? J'espère en la miséricorde du bon Dieu parce que malheureusement j'ai offensé le bon Dieu. Si je n'ai pas offensé le bon Dieu, strictement parlant, je n'ai pas besoin de sa miséricorde puisque je ne l'ai jamais offensé. Strictement parlant, la Très Sainte Vierge Marie, en tant qu'Immaculée Conception, n'avait pas besoin de la miséricorde du bon Dieu, de la même façon que moi, qui suis un pauvre pécheur, ai besoin de la miséricorde de Dieu à cause de tous les péchés que j'ai commis dans le passé. Mais c'est pareil pour chacun d'entre nous, mes bien chers frères. Alors voyons un petit peu le commentaire des Pères, donc sur ces versets 28 à 33, page 5, chapitre 21 de Saint-Luc. Notre Père de l'Église, Théophylacte. De même que le premier avènement du Seigneur avait pour but la réformation de nos âmes, le second aura pour but la réformation de nos corps. Pourquoi? Parce que au premier jugement, premier avènement du Seigneur pour moi, c'est-à-dire au moment de ma mort, séparation entre mon âme et mon corps va aller dans le cimetière, va être la nourriture des vers, va disparaître, se transformer en poussière, mais mon âme, qui est une substance spirituelle, ne peut pas être détruite, donc c'est mon âme qui sera jugée. Donc c'est la réformation des âmes qui va être demandée à ce moment-là. Au contraire, à la fin des temps, au moment du jugement général, dans la vallée de Josaphat, l'endroit précis où notre Seigneur Jésus-Christ a été publiquement vilipendé, crucifié à Jérusalem, en Palestine, eh bien, à ce moment-là, il y aura la résurrection des corps, et les corps vont participer à la gloire de l'âme pour ceux qui sont au ciel, et à la déchéance de l'âme pour ceux qui malheureusement sont en enfer. Alors, notre Seigneur donne l'exemple du figuier, quand on voit que les figues commencent à se former, c'est que l'été est proche, et voilà ce que disent les pères. Le figuier a ici une double signification symbolique. Il figure à la fois l'adoucissement des dures épreuves et la funeste abondance de tous les vices. Donc, l'adoucissement des dures épreuves, c'est la figue, le caractère juteux, le caractère suave, plein de sucre de la figue mûre, et le funeste abondance de tous les vices. Les pères de l'Église expliquent que l'abondance des vices est représentée par les feuilles du figuier qui sont larges. C'est pour ça qu'il y avait, dans l'ancien temps, en Palestine, il y avait des figuiers à l'entrée de chaque maison, parce que les gens pouvaient manger tranquillement, en pleine chaleur, protégés du soleil, par l'ombre provoquée par les feuilles des figuiers qui sont très larges, qui provoquent une ombre importante. Eh bien, la figue représente donc la grâce du bon Dieu, et les feuilles représentent l'abondance des vices. Donc malheur au figuier qui n'a que des feuilles, sans figue. Rappelez-vous notre Seigneur Jésus-Christ qui va chercher des figues sur un figuier, qui ne trouve pas de figues, et qui va maudire le figuier. Alors pourtant, ce n'était pas le temps des figues. Bien faire comprendre que le bon Dieu va nous demander des fruits, des grâces qu'il nous donne. Lors donc que nous verrons les arbres chargés de fruits encore verdoyants, et le figuier si fécond, couvert de fleurs, c'est-à-dire, lorsque toute la langue louera Dieu de concert même avec le peuple juif, nous devons espérer l'avènement prochain du royaume de Dieu, qui sera pour nous comme l'était le temps de la moisson des fruits de la résurrection. De même encore, lorsque l'homme d'iniquité se sera revêtu d'orgueil léger et frivole de la synagogue comparé aux feuilles des arbres, nous devons conjecturer que le jugement approche, car le Seigneur se hâtera de récompenser la foi et de mettre fin à l'iniquité. Mais, rappelez-vous ce qu'il a dit, la fin des temps, lorsque je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi, C'est le cardinal Pie qui avait annoncé, qui avait prophétisé qu'à la fin des temps, l'Église serait réduite à une dimension domestique, quelques familles, quelques âmes qui gardent la foi, une famille par-ci, une famille par-là, une âme par-ci, une âme par-là. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On peut se poser la question de savoir combien y a-t-il encore de familles vraiment catholiques en France. Heureusement qu'on ne connaît pas la réponse, le bon Dieu sait, connaît cette réponse. Et si je connaissais la réponse, bien sûr, je crois que je serais complètement découragé. Le nombre de familles catholiques en France est devenu infinitésimal, tout petit. Quelques, je ne sais pas, je ne peux pas donner de nombre, quelques milliers peut-être, guère plus, de familles qui sont vraiment catholiques, de familles qui se battent pour que les enfants vivent en état de grâce, de familles qui se battent pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment le roi de sa famille, le roi de cette famille, roi par sa présence, par son essence, par sa substance, roi comme créateur, roi comme rédempteur, roi par nature, parce qu'il est créateur, roi par droit de conquête sur nos âmes, parce qu'il est rédempteur. Il y en a très très peu. Mais le bon Dieu se hâtera, disent les pères, de récompenser la foi et de mettre fin à l'iniquité. Je vais terminer cette page 5 pour terminer le chapitre 22 de Saint-Luc, pour pouvoir commencer la passion la prochaine fois. Voyons donc les derniers versets du chapitre 21. Versets 34, 35 et 36. Prenez donc garde à vous. Page 5. De peur que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire, et par les soucis de cette vie, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à tous ces maux qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, parce que l'esprit est prompt mais la chair est faible. Priez sans cesse, nous dit notre Seigneur. Et si je suis apesanti par les excès du manger et du boire, c'est la concupiscence de la chair qui est ici représentée, la concupiscence des yeux, les choses à manger, les choses à boire, les choses qui donnent les plaisirs sensibles, eh bien, il est évident que ces choses sont comme des poids qui vont enfoncer littéralement l'âme dans la boue du péché. Nous devons donc, disent les pères, fuir le péché comme les animaux sans raison, éviter spontanément les aliments qui leur seraient mortels, rechercher la justice comme ils recherchent les plantes pleines pour eux d'un suc nutritif. Un animal sait, une vache dans un pré, mais sait par elle-même qu'il y a certaines plantes qu'elle ne peut pas manger, elle ne peut pas brouter parce qu'elle va être malade, elle le sait. L'instinct ne lui dit, c'est pas l'intelligence, puisqu'une vache n'a pas d'intelligence. Elle n'a pas d'âme raisonnable, elle n'a pas d'intelligence. Mais elle sait spontanément quelles sont les choses qu'elle peut manger, les choses qu'elle ne peut pas manger. Notre Seigneur parle de cette fin des temps qui arrivera. Prions que ça n'arrive pas en hiver. Et qu'est-ce que ça veut dire ? L'hiver, donc, est la figure des soucis de cette vie qui sont tristes comme la saison d'hiver. Le sabbat figure les excès de l'intempérance et de l'ivresse qui submergent et étouffent le cœur dans les jouissances et les voluptés de la chair. Ces excès sont figurés par le sabbat parce que c'est le jour où les juifs se livrent à toutes les jouissances de la terre dans l'ignorance où ils sont du sabbat spirituel. Donc il faut vraiment prier pour que nous soyons prêts le jour où ces choses vont arriver. Il faut se préparer parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'on est à la fin des temps? Encore une fois, je vous l'ai souvent déjà dit, on n'en sait strictement rien. Il ne faut pas dire qu'on a beaucoup de traditionnistes disent on est à la fin des temps. On n'en sait rien. Peut-être que vous avez reçu des lumières spéciales du bon Dieu. Moi, je ne les ai pas reçues. Je ne sais pas du tout si on est à la fin des temps. On est peut-être à la fin d'un temps, mais pas à la fin des temps. On n'en sait rien, strictement rien. Donc il faut être prêt, parce que le bon Dieu peut arriver demain matin comme il peut arriver dans 10 siècles. Je ne sais pas. Enfin, le dernier verset de ce chapitre 21. Versets 37 et 38. Pendant le jour, il enseignait dans le temple, et la nuit, il sortait, demeurait dans la montagne, appelait des oliviers, et tout le peuple venait à lui de grand matin dans le temple pour l'écouter. Un commentaire de Saint Bède le Vénérable, le grand père de l'Église anglaise. Dans le sens figuré, lorsqu'au milieu de la prospérité, nous vivons dans la tempérance, la piété, la justice, nous enseignons nous-mêmes dans le temple, en donnant aux fidèles l'exemple des bonnes œuvres. Le temple, c'est aussi notre âme. Et donc, je dois enseigner les bonnes choses dans le temple, c'est-à-dire vivre en état de grâce. Nous passons les nuits sur la montagne des Oliviers, lorsqu'au milieu des ténèbres de l'adversité, nous aspirons après les consolations spirituelles. Enfin, le peuple vient à nous dès le matin, lorsqu'ayant dissipé les œuvres des ténèbres, les nuages de tribulation, il s'empresse de nous imiter. Donc, il faut être la lumière du monde, le sel de la terre. Il faut être la porte par laquelle les brebis peuvent rentrer rejoindre le troupeau, venir dans la bergerie. Voilà, donc je vais arrêter là. La prochaine fois, Dieu aidant nous, Dieu permettant, nous commencerons le chapitre 22. Donc 22-23, c'est les deux grands chapitres de Saint-Luc qui seront beaucoup plus longs, évidemment, expliquant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, le dernier chapitre plus court, chapitre 24, la résurrection et les apparitions après la résurrection. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en tout soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.